1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, quatrième et dernière émission d'avril. On le sait, Montpellier c'est capital et c'est capital aussi pour les goudous et les gays. En tous les cas, c'est ce que on va finir par croire ce mois d'avril, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est incroyable ça, dis donc.
Encore un événement. C'était quoi ce dernier événement dont
un
on
PD
parle?
Un PD président.
Ouais, bah, ça sera pas pour cette fois-ci, Tao, mais bon, on sait jamais. Peut-être en 2012 17. Et 5, 17. Peut-être. Non, Ariane, on parle de quoi ce soir?
On parle de la conférence de présentation du livre « Être homo aujourd'hui en France » qui a eu lieu donc, au début du mois d'avril. Et donc ce livre a été présenté comme la première étude sur les homosexuels en France depuis 30 ans. Donc vu comme ça, on peut se dire que c'était un petit peu abusif comme présentation, mais en fait, c'est parce que sur l'exploitation des données, ils ont en effet dû recourir au rapport gay qui date de 84, puisque c'était le seul rapport dans les archives, j'allais dire les annales, mais je sais pas pourquoi j'ai hésité devant
mais
ce mot.
Mais c'est bien, annales.
Mais oui, moi je trouve ça très bien pour un rapport sur les PD.
Qui s'occupait à la fois, qui était mixte au niveau de la population visée et qui contenait des questions fermées et des questions ouvertes, puisque donc il y avait eu des enquêtes en fait entre temps, mais qui n'avaient pas ces deux caractéristiques-là. Et donc la comparaison sur la totalité des données recueillies n'était pas possible de ce point de vue-là. Donc c'est un livre qui est dirigé par Michel Doré, qui est québécois, qui se présentera lui-même tout à l'heure.
Et ce n'est pas sa seule qualité, c'est ça que tu veux dire?
Oui, mais il le dira le reste.
D'accord.
Avec son accent, c'est tellement plus drôle.
Oui.
Mais pour dire que nous sommes dans une faille spatiale... Cette fois, c'est une faille spatiale. C'est pourquoi on en parle ici maintenant. C'est parce que cette étude, elle est née presque à l'intérieur du refuge, donc qui est une association qui a essaimé ailleurs qu'à Montpellier, mais qui a quand même
son origine à Montpellier.
Voilà. Et donc une enquête avait été postée sur le site du refuge. Parce que donc la psy qui intervient au refuge, Isabelle Chollet, cherchait justement des données actualisées. Elle cherchait, pour faire une enquête plutôt qualitative, elle visait une cinquantaine de réponses.
Oui.
Elle s'est retrouvée avec 10 fois plus de répondants et répondantes. Du coup, elle pouvait plus gérer seule la masse de données et c'est pour ça que...
Elle a fait appel.
Voilà, puisqu'il y a d'autres façons de se former au Canada et que c'était d'autres façons de... Voilà, elle a été frappée à cette porte-là.
Et donc, on écoute donc Michel Doré présenter en gros cette enquête.
Voilà, les résultats.
Les résultats.
Donc, mon nom c'est Michel Doré, moi je suis professeur et chercheur à l'Université Laval à Québec. À Québec et au Québec. Alors, c'est ma 35e année de carrière maintenant. En fait, j'ai deux formations. J'ai un doctorat en service social. Chez nous, on peut avoir un doctorat. Je sais que c'est pas possible, mais on peut avoir un doctorat en service social. Et aussi un post-doctorat en sociologie de la sexualité. D'abord, la première chose qui, moi, m'a étonné, c'est qu'on se découvre beaucoup plus tôt qu'auparavant. Dans les années 80, dans le rapport gay, lorsqu'on posait la question, les jeunes se découvraient, entre guillemets, à la toute fin de l'adolescence. Maintenant, c'est beaucoup plus tôt, en général entre 12 et 15 ans. À 15 ans, la majorité de nos répondants savent déjà qu'ils sont homosexuels, lesbiens ou bisexuels dans quelques cas. Alors, comme la question était... il y avait aussi une question posée sur la révélation aux autres, on pouvait s'attendre que les jeunes se découvrent et se révèlent plutôt. Or, c'est tout le contraire. Alors que les jeunes se découvrent 2-3 ans plus tôt auparavant, au moins, ils se révèlent à leurs proches, donc père, mère, grands-parents, frères, sœurs, amis, 2-3 ans plus tard. Et ça, ça nous a étonnés parce qu'effectivement, à l'époque du rapport Gay, on se... plutôt, il y avait 3, 4, 5 ans entre la découverte de soi, la révélation aux proches. Maintenant, c'est plutôt 5 à 9 ans. Surtout pour des raisons économiques. En fait, les jeunes qui nous en ont parlé invoquent surtout des raisons économiques. Vous vous souviendrez, ben, les plus vieux d'entre nous, moi j'ai 60 ans, j'ai connu cette époque-là. Alors, dans les années 80, il y avait très peu de chômage, beaucoup d'emplois. On quittait la maison à 16-17 ans. Ben, maintenant, avec les situations économiques, on part de chez ses parents beaucoup plus tard. Alors, il y a des raisons économiques qui expliquent en partie, à tout le moins. Enfin, il y a des jeunes qui nous ont parlé de ça.
Moi, ça m'a vachement intéressé, cette mention des problèmes de société au niveau du logement des jeunes, par exemple, de l'autonomie des jeunes, parce que c'était, il y a une incidence très importante, en fait, la pression qu'on peut avoir aujourd'hui d'être mis à la porte, éventuellement du jour au lendemain, elle est plus sensible quand on sait que le marché, je déteste dire marché, que c'est difficile de trouver un logement et que c'est difficile de trouver un travail.
Donc, au risque de foutre en l'air un semblant d'équilibre familial, on tait son homosexualité, éventuellement on la vit pas dans la clandestinité, mais en tous les cas on la révèle pas dans un milieu familial ou amical proche, c'est ça?
Alors c'est ce qui ressort de l'enquête. Je voulais du coup parler tout de suite de la question de la représentativité, puisque même si 500 c'est beaucoup plus de réponses que ce qui pouvait être attendu, moi c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions je me suis dit quand même, ça a été diffusé par le Refuge, donc c'est quand même une des associations qui intervient dans les cas où c'est le plus compliqué et conflictuel possible entre l'enfant qui se révèle homosexuel à ses parents.
Oui.
Donc, je me suis posé la question, oui, si le public qui avait donc eu accès à cette enquête n'était pas du coup plus enclin à être concerné par ce niveau de violence. Mmh. Donc, voilà. Mais voilà, le niveau de chiffre, c'est ça. En même temps, quand il dit majoritairement, donc là, il parle au niveau des jeunes, et dans les répondants, ça va de 15 à 75 ans.
La révélation ?
Non, les gens qui ont répondu, leur âge est de 15 à 75 ans.
Okay.
Et deux tiers, donc c'est quand même pas mal, mais donc c'est pas les 500 réponses qui avaient moins de 35 ans et qui donc étaient un petit peu dans les chiffres qu'on a entendus.
Ok. Ghislain ?
Moi, j'ai un problème avec cette enquête depuis le début, en fait. C'est que je crois que tu nous avais dit qu'elle se... la psychologue qui avait fait l'enquête se posait la question de savoir les questions spécifiques que les gays se posaient quand ils venaient voir MC. C'est ça, ce genre de... C'était une question...
Alors, il y a plusieurs chapitres dans le livre et il y avait plusieurs parties dans le questionnaire. Et il y a une partie que je n'ai pas conservée, d'ailleurs, dans les sons que je vous propose ce soir, qui portait en effet sur... elle se demandait quelles pouvaient être les attentes. Est-ce qu'on pouvait faire une typologie spécifique puisque elle faisait une formation complémentaire et à chaque fois qu'ils étaient en regroupement, ses collègues... donc souvent, c'était pas une formation initiale, c'était une formation complémentaire. Et donc ses collègues lui demandaient à chaque fois de leur donner des trucs en fait, puisqu'ils se trouvaient démunis face à leurs patients qui arrivaient avec des problématiques qui étaient liées à l'homosexualité, qui étaient sur un questionnement de leur désir personnel ou sur le rapport aux proches, ascendant, descendant, voilà.
Ouais. Mais en fait, voilà quoi. Donc elle part du principe que les homos ont des attentes spécifiques qui seraient liées à leur homosexualité.
Non, elle ne part pas de ce principe-là, elle s'est posé cette question, puisque par contre, au niveau de ce qu'elle a observé...
Déjà, se poser la question, c'est bizarre.
Parce que ce qu'elle a observé, c'est que chez ses collègues, il y avait une demande spécifique, donc un manque de sensibilisation ou de formation.
En fait, ce qui m'ennuie, c'est d'imaginer que les homos ont des problèmes par, enfin, ont des attentes spécifiques par rapport à leur homosexualité au niveau psychologique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire comme si, parce qu'on était homo, on n'avait pas les mêmes questionnements, les mêmes failles que les autres, tu vois ?
Bon, alors, si ça peut te rassurer, on va écouter les autres sons et tu vas voir que comment les difficultés qui peuvent être spécifiques ont été expliquées à la lumière de chiffres qui peuvent sembler très bêtes.
Alors, on écoute le son suivant.
Il y a des angoisses qui accompagnent ça, parce qu'effectivement, on n'est jamais trop certain des réactions. Il y a beaucoup d'anticipations négatives. Le coming out est vraiment vu comme un risque, en fait. Et ça, les jeunes nous en parlent beaucoup, beaucoup. Vous savez, le mot qui revient le plus souvent dans l'enquête, c'est le mot « peur », suivi du mot « honte ». On a honte, non pas de soi, c'est le regard des autres, en fait, qui est porteur de honte. Et ça, les jeunes le disent beaucoup. Parce que quand Isabelle avait eu la bonne idée de poser deux questions, et la question « considérez-vous l'homosexualité normale ?» La très, très grande majorité des jeunes, des moins jeunes, répondent « oui, on est normaux, il n'y a pas de souci là-dessus. » Maintenant, avez-vous déjà eu honte d'être homosexuel? Oui, un peu plus que 50, autour de 50%. Donc, on voit que même si eux se considèrent normaux, ben, on voit bien que la honte, elle est induite, en fait, par le regard des autres. Alors ça, c'est déjà une constatation. Et dans cette angoisse de se révéler, donc, parce qu'il y a cette honte, cette peur, les jeunes nous ont beaucoup parlé d'un coming out ou de coming out au pluriel, sélectif et réitératif, en fait. Le coming out, ce n'est pas un acte posé une fois pour toutes, c'est une succession, en fait, de gestes et de risques. Alors donc, on change d'école, on change de ville, on change d'amis, il faut le redire à nouveau. Donc, le coming out n'est pas cette libération, une fois pour toutes, que décrivent très souvent les écrits américains, par exemple. En Amérique, c'est beaucoup valorisant. Ah, une fois que le coming out est fait, tu seras libéré une fois pour toutes. Or, c'est faux.
Ben, ça ne me rassure pas.
Non, mais c'est parce qu'il faut que tu attends la suite. Donc là,
pointer
les difficultés, les stress, les angoisses qui sont liées au coming out, puisque donc on a entendu par rapport au son d'avant que le temps entre la révélation à soi-même et la révélation aux autres a augmenté.
Oui.
Donc c'est tout ce temps-là où on s'inquiète en fait de comment on va le dire, à qui, dans quel ordre, quelles vont être les réactions, etc. Et c'est dans ces temps-là, d'avant la révélation, qu'il y a des inquiétudes spécifiques que d'autres n'ont pas, quoi. Après, dans le son suivant, ça sera développé autrement sur des statistiques qui ne sont pas plus réjouissantes, mais qui sont pas moins réelles.
Ce qui continue à m'inquiéter, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on plaque des choses. Par exemple, l'obligation de faire un coming out. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire de faire un coming out. Moi, par exemple, j'en ai jamais fait. Tout le monde sait que je suis PD, mais j'en ai jamais fait. Et je trouve que cette obligation et ce truc qu'on plaque sur les gens, ça fausse les choses, tu vois. C'est quelque chose qui m'ennuie, quoi. Qu'on plaque. J'ai l'impression qu'on plaque des clichés sur les gens et sur les homos, des choses obligatoires à faire quand on est homo, qu'on ne doit pas faire quand on est hétéro, enfin, tu vois, et qui, du coup, devraient induire des questionnements ou des problématiques au niveau psy. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui me...
Alors, je sais pas
là,
si...
Là, on n'en est pas à parler de problématiques au niveau psy. Enfin, ça va venir ensuite, mais... Il s'agit d'un questionnaire, donc si c'est mesuré, oui, il y avait des paramètres, oui, non. Et toi, tu dis que t'es out. T'as pas fait de coming out, mais t'es out. Donc, si t'avais été face au questionnaire, est-ce que vous avez déjà fait votre coming out ? T'aurais répondu non ?
Bah oui, parce que j'en ai jamais fait.
Oui, mais je pense que là, plutôt que de coming out, est-ce qu'il faut pas parler de mise en conformité, on va dire, de ce que tu es intimement et ce que tu donnes à voir ?
Ouais,
alors, mais... est-ce que ça passe nécessairement par un coming out ? Peut-être pas. Ça peut passer aussi par un certain nombre de coming out, parce que tu es ce que tu es dans différents champs, hein, le milieu familial, le milieu amical, le milieu professionnel, etc. Donc, D'ailleurs, c'est évoqué à un moment, c'est pas forcément un coming out. Le coming out, tu le fais une fois peut-être, éventuellement, si ta famille n'a pas compris que. Mais éventuellement, tu dois le refaire dans un milieu professionnel. Si tu en changes, tu dois le refaire aussi, etc. Donc,
de toute façon, chaque fois, à moins que tu aies... malheureusement, que tu te retrouves dans des stéréotypes de genre qui font... que le citoyen lambda t'assimile tout de suite à telle ou telle autre typologie, où là encore on est dans le stéréotype, mais sinon à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, généralement tu es présumé hétérosexuel. Donc il y a toujours un moment où tu dis « Ah, moi ma réalité c'est celle-là ». Alors c'est pas forcément dans le sens d'une déclaration, c'est peut-être à ça, je sais pas si tu associes coming out à toute la terminologie que moi aussi je trouve... vraiment pas très heureuse du côté avoué. Enfin, ce terme-là me semble complètement... C'est pour ça que là, il dit révélation, et ça me semble beaucoup plus approprié. Mais oui, quand t'es présumé hétérosexuel et qu'on te dit « Bah alors, pour moi, hein, je parle pour moi, alors t'as un amoureux, t'es fiancée, machin, j'ai pas le droit de me marier, mais oui, je suis amoureuse, voilà. Elle s'appelle comme ci, comme ça, voilà. »
On avance, on écoute le son suivant, si vous voulez bien.
C'est un processus, il y aura en fait une succession, plusieurs coming out, la vie durant, et à chaque fois, les angoisses, les craintes qui s'ajoutent à tout ça. Et précisément, en raison de ces angoisses, de ces craintes, beaucoup de périodes dépressives, 3/4 des personnes interrogées ont vécu des périodes dépressives, et chiffre assez terrible, mais qui est hélas fidèle à... au chiffre qu'on a depuis très très longtemps là-dessus, 10 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes gays et lesbiennes, alors que dans la population générale, c'est autour de 3% chez les jeunes. Chez les 500 qu'on a interrogés, 30%, donc 10 fois plus. Et on sait bien que depuis que l'on a des chiffres là-dessus, ça fait plus ou moins 30 ans maintenant, les chiffres ne changent pas. C'est toujours plus ou moins 10 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes gays et lesbiennes. On me demande souvent pourquoi pas de chiffres sur les suicides complétés. Ben, forcément, les jeunes emportent le secret dans la tombe très souvent. Il n'y a pas moyen de savoir une fois que le suicide est complété pourquoi les jeunes se sont tués. Et même la méthode scientifique qui consiste à faire ce que l'on appelle des autopsies psychologiques, c'est-à-dire de demander aux proches pourquoi le ou la jeune s'est suicidé, ben, ça ne fonctionne pas avec l'homosexualité, pas plus qu'avec les agressions sexuelles d'ailleurs. Dans les autopsies psychologiques, on n'a jamais d'informations à l'effet qu'une personne a été, par exemple, homosexuelle ou lesbienne. Pourquoi? Ben parce que le parent ne dira pas « Mon fils s'est suicidé parce que je le rejetais. Ma fille s'est suicidée parce que je refusais de la voir. » C'est la même chose avec les agressions sexuelles. On sait, le père ne dira pas ben, « Mon garçon, ma fille s'est suicidée parce que je l'abusais sexuellement. » Alors, on n'a pas de chiffres du tout sur les suicides complété. Vous remarquerez que je dis suicide complété et non pas suicide réussi. Il faut surtout ne jamais dire suicide réussi, ce n'est pas une réussite, évidemment, de descendre la vie.
J'ai bien aimé aussi autopsie psychologique. Alors, ça, j'ignorais effectivement.
Tu regardes pas la télé ou quoi?
Bah écoute, si pourtant, mais alors, honnêtement, c'est la première fois que j'entends l'expression.
Je pense que les usages médico-légaux et autres au Canada ne sont pas tout à fait non plus ceux qu'on peut avoir ici.
Grave, hein, quand même, la situation. Alors, moi, ce que je trouve effectivement un peu flippant, c'est qu'on aurait pu imaginer qu'en 30 ans, avec des possibilités pour les gays et les lesbiennes d'identification qui sont quand même moins... Il y a plus de visibilité, donc ça semble plus probable que ça ne l'était dans les années 80. Bah, malgré tout, ça ne semble pas forcément résoudre grand-chose, quoi. Il reste toujours une période vraiment compliquée à vivre.
Bah, parce qu'on est toujours dans le même tout. Moi, je me souviens à RPBK avoir entendu, je ne sais plus qui, dire en fait, c'est c'est vrai que c'est difficile quand quand tu te rends compte que tu es homo, que tu es ado, et que en fait, bah, tu te rends compte que ce qui te nomme, ce qui te définit, bah, c'est la première insulte qui sort, quoi. C'est celle que tu es. Et ils disent, voilà, je me souviens de ça. Et je pense que ça n'a pas changé.
Mmh. Apparemment, non. Enfin, en tous les cas, c'est ce que semble montrer cette étude, Ariane, non ?
Oui, là, de ce point de vue-là, les chiffres au niveau des tentatives de suicide n'ont pas changé. Après, voilà, moi, je me pose encore une fois la question de la représentativité de l'échantillon concerné.
Parce que là, il n'y a absolument rien de scientifique derrière. C'est des volontaires qui ont répondu.
Oui, ça a été fait sur Internet. Ouais. C'est pas un panel représentatif de la... Enfin, bon, bref. Mais c'est surtout aussi voilà, par où ça a été diffusé. Et puis, sur le suicide, au niveau de ce chiffre qui ne baisse pas, je me demande aussi parce que c'est déclaratif, est-ce qu'on en parle aussi différemment ? Oui. Je veux dire, il y a des choses voilà.
Et il faut dire aussi que à ce niveau-là, les pouvoirs publics ont rien fait pendant 5 ans, pour revenir à ce qu'on disait la semaine dernière. Mmh. D'accord, rappelez-vous l'histoire du baiser de la lune.
Ça y est, ça va être diffusé.
Ça va être diffusé, j'ai vu ça. Ouais.
Mais ça date de quand ? Ça fait moins
de 3-4 ans. C'était il y a 2 ans, la polémique.
Il y a 2 ans, ouais. Mais voilà, quoi, ça n'a pas arrangé les choses non plus. Hein. Mmh.
Pause musicale, et on revient pour des questions tout aussi
graves. Plus yopla boum.
Plus yopla boum, je sais pas, on va voir. En tous les cas, la pause musicale devrait être plus yopla boum, mais il n'y a pas de mal, tu me diras. The lusty decadent delights of Imperial Pompeii. Notify ground crews. On enchaîne après Colorbox.
Allez.
On va encore écouter Michel Doré pour des choses un petit peu moins tristes, encore que.
Pourquoi ? Il y a de l'espoir, tu veux dire, un petit peu ?
Non, mais...
On l'écoute, alors.
Il y a des choses qui sont porteuses d'espoir, heureusement. Alors, il y a un chapitre qu'on a appelé l'appartenance, la résilience. Alors, dans ce chapitre-là, les jeunes parlent beaucoup de leurs espoirs. On s'attend à beaucoup de solidarité. On est parfois déçus, mais il faut le dire tout de même. Mais on s'attend beaucoup. Et souvent, c'est cette solidarité qu'on va découvrir avec le temps, en fréquentant soit le milieu commercial, soit les associations LGBT, on va trouver une certaine solidarité qui va donner de l'espoir. Mais plus que tout, l'espoir repose dans le couple. Ça, c'est aussi la belle surprise de cette enquête-là. Presque deux tiers, plus de 60% des jeunes, en fait, sont ou veulent être en couple. Ils veulent se marier. Alors qu'on sait très bien que le mariage n'existe pas encore en France. Ça viendra sans doute. Chez nous, au Canada, ça fait déjà presque 10 ans. Il y a des pays voisins qui l'ont. Mais le désir de se marier est très, très important. Et plus encore, et dans une même proportion, un peu plus que 60%, le désir de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ça, c'est la grande différence si l'on compare avec l'enquête de 1984. À cette époque-là, le désir d'avoir des enfants était pas mal moins élevé. Alors maintenant, on voit bien que le désir d'avoir une vie, finalement, un peu comme monsieur, madame, tout le monde, est très, très, très présent. Mais ça montre que les jeunes et les moins jeunes veulent être inclus dans la société.
Est-ce que c'est pas ça, finalement, être inclus dans la société qui est véritablement en jeu? Et pour être inclus dans la société, la seule façon qu'on entrevoit, c'est de se conformer, d'une certaine façon, au modèle existant.
Qu'on nous donne.
Ouais, bah là, oui, on l'a, ça, on a eu quoi, des discours même de politique qui disaient que la première cellule de la société, c'était la famille. C'était même pas la... Enfin, pour moi, c'est l'individu, hein, donc oui. Ça m'embête beaucoup, mais on a eu des discours comme ça. Donc,
et pas n'importe quelle famille, là, en l'occurrence, une famille, on parle de couple.
De couple et d'enfants.
Et d'enfants. Alors, on est bien placé pour le savoir, hein, la famille homoparentale, elle peut revêtir diverses formes. Mais là, dans l'enquête qu'on entend...
Oui, mais ça, c'est depuis... Tu le dis de ton point de vue, parce que cette question-là, elle a été posée à Michel Doré. Est-ce qu'il y a de la coparentalité au Québec? Sa réponse, accrochez-vous à la table, c'est... Il n'y a pas besoin d'en passer par ces formes-là, puisqu'on a accès à la procréation médicalement assistée, etc.
D'accord.
Tu vois, ça n'existe pas parce que... Il n'y a pas de raison que ça existe, tu vois. Donc, c'est aussi une façon de regarder les choses qui est... Bon.
Comme si, si ça existe chez nous en France, c'est une solution de contournement.
C'est parce qu'on n'a pas accès à la parentalité comme les couples hétérosexuels. D'accord. Que voilà. Donc c'est quand même une vision en effet assez normée.
Pour le moins.
Voilà. Oui. Mais heureusement, dans l'assistance.
Dans l'assistance.
Écoutez donc.
Je veux quand même rappeler, quand on parle en public dans le monde, et qu'on fait des études dessus, bien rappeler qu'il n'y a aucune obligation à devenir parent et à se reproduire, que c'est un choix, que ce choix doit être absolument garanti à ceux qui le veulent, mais qu'on peut aussi vivre l'homosexualité en faisant le choix de ne pas vivre en couple, le choix de ne pas être marié quand on vit en couple, et le choix de ne pas avoir d'enfant, et que ces combats-là, ils sont très anciens, et je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté de trop, qu'il faut en permanence rappeler que le choix de vivre sa vie et de faire ses choix fondamentaux, il faut aussi que les homos s'en emparent et qu'ils ne se focalisent pas uniquement, je dirais, dans leurs revendications de droits, etc., notamment, sur la question de cette normalisation, je dirais, même si c'est tout le monde a le droit de le faire s'il veut, bien sûr, mais sur cette question de la normalisation sociale, même s'il y a un tas d'homos de ma génération ou même des plus jeunes qui disent « nous, ce qu'on veut, c'est être différent ». Et cette différence-là, il faut qu'elle arrive aussi dans le discours public, et je pense qu'elle est encore plus difficile à revendiquer que le discours de la normalité qui passe quand même, il me semble, relativement bien, même si la question du droit reste bien sûr posée.
En lisant, parce que j'ai lu les 500 réponses des hommes et des femmes, il y a vraiment les deux. Et dans ce que vous dites, il y a les deux aussi. Effectivement, le droit d'être semblable et le droit d'être différent. Il y a les deux, et ce qu'on sent aussi, c'est que même chez les jeunes qui ne veulent pas, qui n'ont pas de projet de couple ni de mariage, même ceux-là revendiquent justement le choix dont vous parlez. C'est-à-dire le même choix qu'une personne hétéro qui peut décider de ne pas être en couple et de ne pas avoir d'enfant. Et c'est tout simplement le même choix. Actuellement, pour les gays et lesbiennes, il n'y a pas ces choix-là. Enfin, ils sont très difficiles à poser parce qu'il n'y a pas d'égalité sur le plan des lois. Mais moi, j'ai l'impression que cette revendication-là, elle est plus, même si la personne ne se sent pas concernée, elle se sent concernée par l'égalité des droits. Moi, j'ai trouvé que c'était un discours qui revenait, qui était très, très fort sur, quels que soient les désirs ou les projets des répondants spécifiquement.
Merci Paola.
Ah ben voilà, c'était quand même la meilleure intervention de la soirée pour moi.
Pour moi aussi.
Vous aviez qu'à venir.
Ah ben non.
Pourquoi, il y en avait d'autres intéressantes?
Bah, il y aurait eu vous, vous auriez pu intervenir en plus de Paola.
Ah mais non, ouais, je trouve qu'elle le fait.
Nous avons délégué Paola et
bien.
C'était parfait.
Ouais.
On se quitte là-dessus?
Ouais.
On se revoit au mois de mai,
par exemple.
S'il nous plaît.